Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Notre-Dame du Travail, je vous offre et vous consacre mes tâches quotidiennes et celles de tous les hommes. Notre-Dame du Travail, je vous prie aujourd'hui pour ceux qui portent la charge de l'autorité, pour ceux qui portent une responsabilité temporelle, pour ceux dont les décisions engagent l'avenir. Mère des bons conseils, donnez la prudence à ceux qui doivent conduire les affaires du monde. Rendez humbles les puissants et faites qu'ils se rappellent toujours que Dieu les a établis pour être au service de la paix, de la justice, de la vie et de la vérité. Trône de la sagesse, éclairez notre choix quand il nous revient de les choisir, apaisez les esprits quand des opinions s'opposent, et soyez la porte du ciel pour ceux qui paient de leur vie la recherche de la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Travail, priez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci d'être là quand même, qu'il y ait un petit public. En fait, on ne travaille pas pour la gloire, on travaille pour la postérité. C'est-à-dire que mon but n'est pas de vous faire un traité sur l'autorité, sûrement pas. Et je n'ai pas du tout de prétention à être exhaustif. Je voudrais essayer, et très simplement, je vous l'avoue, je manque de temps pour préparer suffisamment ces conférences, mais... Il y a quelques années maintenant qu'on a écrit cette neuvaine, et plus je la pratique, et je ne suis pas le seul, plus je trouve qu'il y a des richesses que l'Esprit-Saint nous a inspirées, que Notre-Dame du Travail nous a inspirées dans l'Esprit-Saint. Et le but de ces conférences, il y a 9 conférences comme 9 jours de la neuvaine, c'est d'essayer de creuser toujours ce même filon, cette même intuition. Notre-Dame du Travail a des choses à nous apprendre sur le travail. Et Notre-Dame du Travail a des choses qui sont... elle a une manière particulière, elle a un mode propre qui nous aide à envisager les différentes dimensions du travail selon ces 9 jours, je vous les rappelle pour mémoire, même si vous les avez dans la neuvaine, où il y en a qui le savent peut-être par cœur. Le premier travail, c'est le travail de l'enfantement. Pour moi, c'est la première grande caractéristique de la Vierge Marie, c'est qu'elle est mère et elle nous apprend à enfanter, pas seulement la vie biologique, pas seulement pour les mamans, mais elle nous apprend l'enfantement au sens large. Alors ça, je vous renvoie aux conférences qui sont déjà faites. Deuxièmement, le travail de l'éducation. Troisièmement, le travail quotidien qu'elle nous apprend à offrir. Quatrièmement, le travail qui manque dans les difficultés, les angoisses du travail, les angoisses du manque de travail. On a fait ça la dernière fois. Aujourd'hui, le 5e jour, le travail de l'autorité. Alors, je vais y revenir, bien sûr. 6e jour, le travail à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire dans l'Église, le travail des prêtres, des prophètes, des martyrs, etc., des missionnaires. 7e jour, le travail et ses blessures, toutes les blessures au travail. Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans notre monde aujourd'hui. 8e jour, le travail au soir de la vie, ça c'est pour les grands-parents, pour ceux qui sont en retraite, pour ceux qui se croient inutiles, ceux qui, alors que leur vie a encore du prix et peut donner un fructueux travail, et la Vierge Marie peut vraiment nous apprendre beaucoup dans ce domaine. Et puis 9e jour, le rapport entre le travail et l'Eucharistie. Je crois qu'il y a quelque chose
puisque mon intuition première, la toute première intuition, c'est que la Vierge Marie nous apprend à offrir le travail qui devient le pain de la vie, qui devient la coupe du salut, hein, qui devient la coupe de l'alliance. Voilà, alors mon but à travers ces conférences, c'est d'essayer d'ouvrir des portes et de suggérer des pistes, mais j'ai parfaitement conscience qu'il y en aurait beaucoup d'autres à ouvrir, à suggérer, mais j'espère fonder là mettre quelques pierres de fondation pour que le travail se continue après et pour que cette spiritualité de Notre-Dame du Travail puisse continuer à se développer et à donner des fruits. Alors aujourd'hui, le travail de l'autorité, c'est une grande, grande question ça. Le travail de l'autorité, le travail de la responsabilité, tous n'ont pas des grandes responsabilités, mais enfin, presque tout le monde a quand même une petite responsabilité, ne serait-ce qu'une petite responsabilité, ne serait-ce qu'une petite autorité, ne serait-ce que la clé du placard du ménage. C'est déjà une certaine autorité. Qui a des clés à une autorité. Enfin, alors on va essayer de... Je voudrais essayer d'abord de regarder quelques points de la vie de la Vierge Marie, là où Marie a exercé une autorité, comment est-ce qu'on peut discerner quelques lieux. Je pense qu'on peut dire quand même quelque chose sur l'autorité de Marie. Et puis, ensuite, je voudrais essayer de faire quelque chose d'un peu plus théorique, la philosophie d'autorité, au moins planter quelques repères essentiels sur l'autorité. Et enfin, voir comment Marie peut nous apprendre, peut nous aider dans cet exercice de l'autorité, à l'exercer selon Dieu. Marie, c'est étonnant parce qu'elle est la mère de Dieu, donc elle est couronnée à la fin de sa vie et dans son assomption, elle est couronnée comme reine du ciel et de la terre. C'est elle qui commande tout en réalité, c'est elle qui règne, c'est elle qui est... Et comme c'est une reine, le roi obéit à la reine. C'est la reine qui commande tout au ciel, c'est formidable ça. Elle a reçu tout pouvoir. Le Christ disait, il a reçu tout pouvoir... Mais il a remis ce pouvoir, en quelque sorte, à la reine qui est couronnée, et c'est elle qui commande, c'est elle qui... Vous savez, on sait bien, hein, c'est l'épouse dans un foyer, l'épouse est reine, c'est l'épouse qui commande le cœur de l'époux. Donc la Vierge Marie, comme mère de Dieu, elle est au-delà de tout, elle commande aux anges, elle commande à toutes les puissances du ciel et de la terre, elle est au-delà de tout. On peut dire, vous voyez, saint Paul dit de Jésus, parce qu'il a été abaissé, il a pris la condition d'esclave, il a été dans l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix, et à cause de cela, il a été élevé au-dessus de tout. Hein, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout au ciel et sur la terre s'agenouille pour l'adorer. Bon. On peut dire un peu la même chose de la Vierge Marie. À la suite du Christ, elle s'est abaissée jusqu'à subir la croix, elle aussi, avec Jésus, avec son Fils, de façon non sanglante, mais de façon absolument réelle. Jean-Paul II aimait dire qu'elle est co-rédemptrice. Depuis, Benoît XVI a un petit peu corrigé en disant... Il faut faire attention à l'expression « co-rédemptrice » parce qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. C'est le Christ par qui tout est rétabli. Oui, c'est vrai. Mais Jean-Paul II a été très très loin, et comme il est saint, on peut quand même s'appuyer sur son autorité. Marie a été très très loin dans la coopération à l'œuvre de rédemption, parce que c'est elle qui, comme l'épouse, coopère à l'œuvre de l'époux. Elle porte à la croix ce même mystère que le mystère de Jésus. Et donc on peut dire que Marie, elle s'est abaissée elle aussi, comme servante depuis la toute première heure où elle s'est présentée comme la servante du Seigneur. Elle est la servante au sens où elle coopère profondément à l'œuvre de Dieu en acceptant d'être elle aussi transpercée par ce glaive de douleur. Et elle est descendue jusque dans les abîmes de la souffrance et de la douleur. Et c'est pourquoi elle a été élevée au ciel dans la gloire. Et c'est pourquoi elle est elle aussi élevée sur un trône de gloire. Elle partage, c'est la seule pour le moment au ciel, elle partage la gloire de son Fils. Elle partage la gloire de son Fils et elle règne avec lui au cœur même de la Trinité. Elle est couronnée comme reine et reine du ciel et de la terre. C'est beau, ça. Mais c'est une première chose et ça va conduire toute notre réflexion de ce soir. Elle est reine et elle est au-delà de tout. Elle gouverne tout parce qu'elle est la servante et qu'elle est au-dessous de tout. Parce qu'elle a accepté cet abaissement jusqu'à l'extrême de l'abîme de la douleur. Et de fait, dès les commencements, alors que beaucoup d'autres à sa place auraient pu se prévaloir de ce privilège unique qu'elle avait reçu d'être la mère du Sauveur, au contraire, elle se cache dans une discrétion incroyable. Et elle laisse en permanence, on voit ça dans les évangiles de l'enfance, Marie, dans l'évangile, elle est pas, on la voit pas à toutes les pages, hein, mais elle est en filigrane derrière, parce que l'évangile de l'enfance nous donne ce visage de la Vierge Marie et qui après, au fil de l'évangile, nous aide à envisager sa présence. Et puis on a tout l'Ancien Testament que l'Église a repris dans sa tradition, dans les pères de l'Église, pour découvrir à travers les grandes femmes de l'Ancien Testament déjà des préfigurations de Marie. Alors ce serait intéressant de voir toutes les préfigurations dans les femmes très célèbres de l'Ancienne Alliance, les Sarah, les Rachel, les Déborah, enfin il y a tout un tas de femmes, de saintes femmes de l'Écriture qui sont extraordinaires et qui nous aident à percevoir le vrai visage de la Vierge Marie. Mais ce qui est étonnant, si on s'en tient aux évangiles de l'enfance, c'est que Marie, elle se cache complètement derrière l'autorité de Joseph. Au lieu de se prévaloir de son privilège d'être la mère du Sauveur, elle laisse Joseph... D'ailleurs, c'est Joseph qui reçoit les consignes, si j'ose dire, pour ce qu'il faut faire avec le Jésus et Marie. C'est Joseph qui reçoit le songe pour aller en Égypte, prend Marie et prend ton épouse et l'enfant. Et maintenant, il faut fuir en Égypte. Puis après, pour retourner en Terre Sainte, elle se cache complètement derrière l'autorité de Joseph et derrière la responsabilité de Joseph. Il y a un autre endroit très... quand elle se cache derrière l'autorité de Joseph, quand elle se cache derrière la responsabilité de Joseph, c'est très extraordinaire cette discrétion, ce silence de Marie. On l'a déjà souligné souvent, et puis dans la paroisse on en parle souvent, cette extraordinaire humilité de Marie qui s'efface. La femme parfaite, elle est toujours là quand il faut, jamais là quand il ne faut pas. La femme parfaite qui est dans la discrétion totale, mais extrêmement présente, extrêmement présente. Il y a un endroit qui est très typique de la Vierge Marie par rapport à l'autorité, c'est au moment de la présentation de Jésus au Temple. Dans la présentation de Jésus au Temple, elle pourrait se prévaloir du fait qu'elle est vierge et qu'elle a conçu l'enfant de Dieu d'une façon miraculeuse. Et donc, elle n'a absolument pas besoin d'accomplir la loi qui demandait à la femme d'être purifiée au moment de la présentation de l'enfant, etc. Mais par discrétion, par humilité, elle obéit totalement à la loi. Elle se cache derrière la loi. Elle est toute entière cachée. C'est-à-dire, elle va suivre les rites de purification exactement comme la loi l'exige, alors qu'évidemment, elle n'en a pas besoin, qu'elle est complètement dispensée de tout. Puisqu'elle porte l'enfant Dieu, et cependant, elle se soumet à la loi de Dieu. Et au lieu de présenter elle-même son enfant, elle laisse Siméon accomplir ce rite, ce geste. Elle laisse Siméon accueillir l'enfant dans ses bras, et elle, tout étonnée avec Joseph de ce qu'on disait de l'enfant, elle se réjouit en même temps de ce qu'on disait de lui. Et puis, elle accueille... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourrait reprendre tous les mystères du rosaire à nains, mais elle accueille la prophétie de Siméon qui lui dit « Toi aussi, un glaive te transpercera l'âme, ton fils sera en butte à toutes les contradictions. » Et Marie reçoit ça avec une humilité, une discrétion, elle accueille tout ça dans son silence. C'est un lieu que j'aime particulièrement et que je commande très souvent, le cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Et là, on voit à quel point Marie, qui est la mère, et qui l'enfant a 12 ans, Jésus a 12 ans, Marie, qui est la mère, a toute autorité sur son fils, puisque c'est la mère, et en réalité, dans une humilité incroyable, elle écoute son fils, elle se met à l'école de son fils. Et quand, dans sa question « Pourquoi nous as-tu fait cela ?», il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans sa voix, il n'y a pas l'ombre d'un... Elle ne demande pas des comptes à son fils, elle ne demande pas des comptes à Dieu, mais enfin, pourquoi t'as fait ça quand même ? Vous voyez, comme quelqu'un qui... Elle s'efface elle questionne son fils pour se mettre à son école en réalité. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette affaire ? Qu'est-ce que je dois penser de ce que tu as fait ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois en apprendre ? Comment est-ce que je dois réagir par rapport à ça ? Et la réponse de Jésus, comment se fait-il que vous m'ayez cherché, puisque vous savez bien que je suis aux affaires de mon père ? Ils ne comprirent pas, l'évangile parle de Jésus, de Marie et de Joseph, ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Donc Marie accepte de ne pas comprendre. C'est elle qui porte vraiment l'autorité, c'est elle qui porte cette responsabilité par rapport à l'enfant. Et cependant, elle se cache et derrière Joseph et derrière Jésus, même quand il est enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement... non seulement inactive, mais elle est pas passive. Un autre endroit que nous aimons beaucoup, c'est les noces de Cana, au tout début de la vie apostolique de Jésus. Et ça, c'est peut-être l'endroit où on voit le mieux l'autorité de Marie. Les noces de Cana, on peut en dire beaucoup de choses. On peut souligner une quantité de détails à travers ça, mais... Vous vous rappelez, Marie dit à Jésus « ils n'ont pas de vin ». Marie signale cette réalité et Jésus questionne sa mère « que, femme, que me veux-tu ? » Bon, je passe un peu sur tout ça parce que... Et elle s'adresse au serviteur « faites tout ce qu'il vous dira ». Simple phrase. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et Jésus dit au serviteur « remplissez d'eau les jarres, 600 litres ». Souvent, je vous ai dit ça, enfin, j'ai commenté ça, mais parce que ça me sidère, c'est vraiment un lieu incroyable. Moi, j'aurais été dans les serviteurs, j'aurais râlé, mais c'est pas de l'eau qu'ils veulent, c'est du vin. 600 litres, mais quel gâchis, mais c'est complètement idiot. J'aurais réagi, je me sens, si je suis ma pente naturelle, j'aurais réagi assez violemment en disant, mais c'est complètement, non, c'est idiot, 600 litres d'eau, puis 600 litres d'eau, les serviteurs, ils ont eu le temps de réfléchir, hein, faut les faire couler les 600 litres quand même, hein, c'est pas rien. Bon, et maintenant, portez-en, dit Jésus, portez-en au maître du repas. Et là, je me serais mis en colère. Je disais, mais c'est pas de l'eau qu'ils veulent. De quoi on va avoir l'air ? Enfin, on va avoir l'air d'imbécile. On va porter de l'eau et c'est du vin qu'ils attendent. Et c'est en versant qu'ils s'aperçoivent que c'est du vin. Et qu'est-ce qui a fait que les serviteurs, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, et pas plus bêtes que moi, après tout, qu'est-ce qui a fait que les serviteurs ont fait ce que Jésus leur disait ? Parce que Marie a commandé, faites tout ce qu'il vous dira. Pour moi, c'est un signe. Pour moi, c'est un lieu où je contemple et je m'y arrête très souvent parce que je suis émerveillé de l'autorité de Marie. Elle a une autorité qui est... C'est-à-dire, quand elle dit quelque chose, on ne peut pas ne pas faire. Quand elle dit quelque chose, c'est sans appel. Elle a l'air de rien, l'air de ne pas y toucher, un simple mot, et on est... Bon, maman a dit, Marie a dit, je fais. Et je m'y reporte très très souvent dans l'Évangile, quand je ne comprends pas quelque chose, quand Jésus me conduit par des chemins que je ne connais pas, quand l'Esprit-Saint semble me dire qu'il faut faire quelque chose alors que ça me paraît complètement idiot, quand les circonstances me paraissent aberrantes, quand on est conduit dans une situation qui semble une voie sans issue, qui semble n'avoir pas de sens, qui semble... je regarde la Vierge Marie et elle me fait comme ça avec ses yeux, alors je fais et j'avance. Et non seulement ça me donne confiance, mais je sais que c'est elle qui sait. Alors je m'en remets. Je suis son fils, je m'en remets. Là, l'autorité de Marie, elle est coupante. C'est-à-dire, pour peu qu'on la regarde en vrai, un simple mot d'elle, et c'est implacable, à condition de la regarder. Mais c'est vraiment étonnant comme la Vierge Marie, elle a quel âge à ce moment-là ? Si Jésus a 30 ans, elle n'a pas tout à fait la cinquantaine. C'est une femme qui est tellement belle, tellement jeune, tellement pure. C'est une femme qui n'a pas d'âge. Elle porte sa virginité sur son visage. C'est une femme, rien qu'à la regarder, je me sens serviteur et j'ai envie de faire ce qu'elle me dit. Et elle a besoin de rien dire. Elle cligne des yeux, elle me regarde avec, et je fais. Elle a une autorité qui est indiscutable. Ça m'impressionne énormément. Je la regarde à la croix et je vois Jean qui s'accroche à elle, qui se serre contre elle. Marie est debout au pied de la croix. Elle pleure, mais elle est debout et son autorité est intacte. Et je vous ai dit très souvent, mais ce serait un autre sujet, mais je m'y arrête très souvent, la conversion du bon larron, c'est grâce à Marie. La conversion du centurion, c'est grâce à Marie. C'est en voyant le visage de Marie qu'ils ont été emportés dans le secret du mystère. C'est la première chose en arrivant au ciel que Marie, elle a cherché le bon larron du regard. Et le bon larron l'attendait. Le bon larron l'attendait au ciel pour la remercier, parce que c'était grâce à elle qu'elle était au ciel. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Le bon larron, le centurion, l'autorité de Marie au pied de la croix, elle a bouleversé ce bon larron. Bon, c'est vrai que le mauvais larron n'a pas eu la même réaction. Ça, c'est très mystérieux. Mais il n'a pas regardé Marie. Il n'a pas regardé. Il n'a regardé que sa douleur à lui. Il n'a regardé que l'horreur de sa douleur à lui. Et il a hurlé. Il a hurlé en fermant les yeux. Il n'a pas regardé. Le bon larron, lui, il a regardé. Et il a découvert dans les yeux de Marie l'innocence de Jésus. Ça, c'est une autorité. Une autorité implacable. Je regarde Marie au moment où on a décroché Jésus de la croix. Et Marie est au pied de la croix et sans rien dire, mais elle est tellement présente, on lui a remis l'enfant. On lui a remis Jésus et elle porte l'enfant Dieu comme elle portait elle porte Jésus comme elle portait l'enfant Dieu. Elle porte le cadavre de Jésus, elle continue à pleurer, mais dans une dignité. Là, elle est la mère, elle est déjà la reine. Elle est la reine douloureuse, mais elle est la mère. Là, je regarde son autorité. Elle regarde où on l'a mis au tombeau, et après, elle retourne au cénacle, elle ne bouge plus. Tout le samedi saint, enfin le samedi saint qui est pour eux le sabbat, ce Shabbat si saint du repos de Dieu. Les femmes sont excitées, les femmes sont impatientes, les femmes trépignent pour aller au tombeau dès le lever du jour du lendemain du sabbat. Et Marie, elle est silencieuse, elle est calme, elle est sereine, elle attend ce que Jésus a promis, sans savoir comment ni où. Mais là, son autorité est parfaite. Et elle accueille, dans cette autorité, elle accueille Pierre. Elle accueille Pierre qui vient de renier. Souvent aussi, j'en ai parlé, mais je le redis ici parce que c'est l'autorité de Marie, tout ça. Pierre sait, il est parti en pleurant amèrement, vous vous rappelez, après le reniement. Il a erré toute la nuit, le jour, il a regardé de loin la crucifixion, c'est pas possible autrement qu'il ait pas pu assister, mais de loin, en se cachant. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir Marie. Il savait que c'était la seule femme au monde qui pourrait l'accueillir sans le juger, qui pourrait l'accueillir sans faire de reproches. Il est allé pleurer près de la Vierge Marie, qui l'accueillait comme une mère. Là, l'autorité est totale, totale. La mère qui réconcilie, la mère qui console, la mère qui... Comment je sais que Pierre était avec Marie ? Parce que le matin où Marie-Madeleine vient chercher les apôtres, il y a Jean et Pierre qui sont là. Si Jean est là, c'est que Marie est là. Et si Pierre est avec Jean, c'est que Pierre est allé voir Marie. Pierre n'est pas revenu pour aller voir Jean, il est revenu pour voir Marie. Puis, un dernier moment qu'on peut regarder, il y aurait d'autres moments, mais l'autorité de Marie dans cette période du Cénacle entre l'Ascension et la Pentecôte, quand les apôtres, pour obéir à Jésus, sont allés retourner à la salle haute pour attendre la réalisation de la promesse, et Les Actes des Apôtres nous disent que Marie était avec eux, Marie était avec les douze. Marie leur apprend à prier, mais elle ne leur apprend pas comme une maîtresse d'école, elle leur apprend par son attitude, elle leur apprend par son intériorité, elle leur apprend par son sourire, son silence, par et les apôtres se mettent à son école, et là, elle a une autorité totale, elle est la mère de l'Église. C'est très beau, je suis très heureux, parce que le pape, je ne sais pas si vous savez ça, le pape a demandé, a décrété qu'il y aurait désormais une fête nouvelle dans l'Église, le lundi de Pentecôte, le lendemain de la Pentecôte, Marie, mère de l'Église. Le premier qui a déclaré Marie, mère de l'Église, c'est Paul VI, pendant le Concile. On lui avait dit, mais vous ne faites pas de cette folie, vous allez aller contre l'œcuménisme, vous allez faire reculer l'œcuménisme qu'au contraire le Concile a promu, etc. Et si vous déclarez Marie mère de l'Église maintenant, vous allez aller complètement à contresens. Et Paul VI a maintenu, il a déclaré Marie mère de l'Église. Et aujourd'hui, François institue une nouvelle fête, la fête de Marie mère de l'Église, qui n'existait pas encore dans la liturgie. Et le lendemain de la Pentecôte, Marie, mère de l'Église, c'est formidable, formidable. Et Marie, silencieuse après la Pentecôte, qui accompagne les premiers apôtres, qui accompagne Jean essentiellement jusqu'à sa dormition. Ça a dû être très rapidement après la Pentecôte, mais là, on n'en sait rien. Mais une dernière fois, la tradition nous rapporte en tout cas que la dormition de Marie, quand elle s'est endormie dans la mort, mais pour être aussitôt élevée dans le ciel, les apôtres sont réunis autour d'elle. Et là, c'est elle qui emporte l'Église au ciel. En quelque sorte, le Christ avait emporté l'Église au ciel dans son ascension, mais Marie est la première des créatures. Le Christ, c'est un peu spécial parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Mais Marie, elle est tout entière humaine. Elle n'est pas divine. Elle est tout entière humaine, mais elle emporte alors cette Église dans le ciel à la suite de Jésus. Au fond, c'est ça l'autorité. L'autorité, c'est ce qui fait monter, c'est ce qui élève, c'est ce qui grandit. Est-ce qu'on peut, alors ça c'est un peu ma deuxième partie, est-ce qu'on peut essayer de distinguer différents types d'autorité? Moi, je vois trois grands types d'autorité, je vois l'autorité domestique, ce que j'appellerais moi l'autorité domestique. L'autorité domestique, c'est l'autorité paternelle et l'autorité maternelle. L'autorité domestique, c'est dans la famille, qui est la première cellule de la société. Bon, qui aujourd'hui, on sait bien, c'est pas peine de commenter trop, mais qui est totalement déstructuré dans notre pauvre monde, la société qui a fait voler en éclats cette cellule de la famille, et pourtant c'est la cellule naturelle que Dieu a voulu pour le lieu de la croissance de l'enfant. Dans la cellule familiale, le père engendre, le père engendre et fait grandir au sens où il donne la direction, il montre la direction, il est celui qui est debout, il est celui qui va de l'avant, il est celui qui va aider. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû commencer par l'autorité maternelle, mais il est celui qui va aider à la séparation de l'enfant d'avec sa mère. C'est-à-dire c'est le père qui va s'interposer, si j'ose dire, entre l'enfant et sa mère, et qui va, à travers des étapes que Freud a décrites, mais que des psychologues, que des philosophes ont décrites, chacun selon sa spécialité, mais c'est le père qui va peu à peu aider ce détachement de l'enfant par rapport à la mère, et qui va aider ce mouvement de l'enfant vers sa fin propre, vers son bien propre, vers sa vie personnelle. La mère, elle achève et elle protège. La mère, elle fait grandir dans le milieu. Elle est gardienne du milieu. La mère, elle crée un climat maternel. La mère, vous voyez, la mère qui est tout intérieure quand l'homme est tout extérieur. L'homme, il est tout vers le dehors. La femme, elle est tout vers le dedans. L'homme va de l'avant et aide l'enfant à aller de l'avant. La femme, elle achève, parce que c'est elle qui concrètement porte l'enfant jusqu'à l'achèvement de sa gestation. Et c'est elle qui crée ce climat qui apprend à l'enfant à vivre, à vivre d'une façon autonome, mais d'une façon autonome pour qu'il puisse vivre. Et c'est le père qui, petit à petit, va projeter l'enfant dans la vie. Ce serait intéressant, je ne vais pas m'attarder parce que l'heure tourne et puis que je ne veux pas faire un cours de philo ici, mais ce serait très très intéressant d'essayer de détailler ce rôle du père et de la mère dans la famille. C'est très très important. Et on sait bien, aujourd'hui, on sait à quel point ces choses sont discutées, sont remises en cause, sont niées même. Comme si avoir deux mères ou deux pères, ce serait l'équivalent. Enfin, tout ça est aberrant. Tout ça est tout simplement une négation du projet de Dieu. En philosophie, il faudrait argumenter d'une autre manière qu'en théologie. Mais dans ce qui nous intéresse ici, nous, dans le projet de Dieu, évidemment, Dieu a voulu cette cellule familiale pour faire. Il a tellement voulu cette cellule familiale qu'il l'a voulu pour son propre fils. Il a voulu donner une mère et un père à Jésus. Et Jean-Paul II, dans sa lettre sur Saint Joseph, dit que Joseph exerce par rapport à Jésus une paternité totale, tous les droits et tous les devoirs d'un père sur son fils. Parce que Jésus voulait avoir un père comme tous les enfants de la terre. L'autorité domestique, première grande catégorie que je distingue comme autorité. La deuxième autorité qui est assez proche, parce qu'elle regarde encore la personne individuelle, le bien de la personne seule, en quelque sorte, c'est l'autorité, moi j'appellerais ça l'autorité personnelle. Et je vois deux grands types d'autorité, mais si vous avez d'autres idées, je serais tout à fait preneur, hein, mais j'avais beaucoup travaillé ça autrefois et j'y ai ressorti toutes mes notes sur la question, puis j'ai un peu retravaillé, mais il faudrait le retravailler beaucoup plus. L'autorité du maître qui enseigne et l'autorité du médecin qui apprend à son patient à patienter, en quelque sorte, qui apprend à son patient à vivre la santé. Le médecin soigne et guérit parfois, mais pas toujours. Mais le médecin, son rôle est d'apprendre au malade à être patient. C'est beau. Quand on me parle de client pour un médecin, ça me fait bondir. Mon père était médecin et quand on lui parlait de ses clients, il claquait la porte et il s'en allait. Il n'y a rien de pire que de regarder les patients comme des clients. Le patient est un patient parce que le médecin soigne, le médecin prend soin. Quand je dis le médecin, c'est le personnel infirmier, c'est tout le personnel soignant. Hein. C'est très très large. Hein. Je mets tout ça sous le mot du médecin, mais c'est extrêmement large. Et de même pour le maître qui enseigne, toute personne qui éduque, toute personne qui transmet un savoir, toute personne qui transmet une connaissance, et ça, c'est très 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 large, hein, au sens très large. Autorité personnelle, c'est-à-dire au sens où on regarde toujours le bien personnel, le bien individuel d'une personne. Et puis la troisième grande catégorie que je pourrais distinguer, c'est l'autorité politique, c'est-à-dire l'autorité qui va regarder le bien commun. Et là, je distingue dans cette catégorie de l'autorité politique encore trois catégories, trois sous-catégories, disons. L'autorité de... Alors, c'est un mot philosophique, hein, ne prenez pas ça, n'en concluez pas que je suis royaliste ou quoi que ce soit. L'autorité du prince, c'est un terme philosophique, c'est-à-dire celui qui règne, celui qui exerce l'autorité politique au sens fort, c'est-à-dire celui qui est responsable du bien commun de la cité, au sens... Alors aujourd'hui, pour nous, ce serait le président ou des députés ou des hommes politiques, hein, le monde politique... et qui est responsable de la cité et principalement du bien commun dans la cité. Et le bien commun, c'est principalement pour lui la paix et la concorde. Vous voyez, quand quand l'homme politique ne s'occupe plus que d'économie, il y a une déviation de la politique. Il y a une distorsion de la politique. Parce que cette partie économique, c'est l'autorité du maître d'œuvre, l'autorité du PDG, disons, l'autorité du chef d'entreprise, l'autorité de celui qui est responsable dans la cité du bien commun en tant que développement matériel du bien commun, en tant que il permet à la personne de vivre dans la sécurité d'un travail qui épanouit. Une autorité très particulière, ça, c'est l'autorité du chef, l'autorité de celui qui commande, mais qui commande dans une entreprise, qu'elle soit toute petite entreprise ou très grande entreprise, c'est l'autorité de celui qui est gardien du bien commun de tous les salariés ou de tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. C'est celui qui est responsable, en quelque sorte, du rendement productif. Qui est responsable de ce qui permet de vivre au point de vue matériel, mais aussi à travers un travail qui épanouit. On en a parlé à propos du travail, à propos de la qualité du travail. La qualité du travail, c'est pas seulement le rendement, c'est l'épanouissement personnel. Mais en quelque sorte, l'autorité politique, elle est d'une part celui qui gouverne, celui qui permet au bien commun d'être conservé dans la paix et dans la concorde, et d'autre part, celui qui permet le développement productif, le développement des biens, vous voyez, qui permet de vivre matériellement parlant. Il n'y a pas la même autorité, c'est pas la même forme d'autorité. Pourquoi ? Parce que le bien est différent, parce que la fin est différente. Je vois une troisième sous-catégorie. Peut-être qu'on pourrait en ouvrir d'autres, hein, parce que. Mais une troisième sous-catégorie, l'autorité militaire. C'est une forme d'autorité particulière. L'autorité militaire, c'est celui qui commande en vue de la défense et de la sauvegarde du bien commun, qui est attaqué, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et donc, le bien principal que vise cette autorité militaire, c'est la paix. Le militaire n'existe que pour la paix. Le militaire n'existe pas pour la guerre, il existe pour la paix. Le rôle du militaire, c'est de contenir la violence pour peu à peu résorber la violence, pour peu à peu contenir la violence et la faire diminuer. Et si le militaire est obligé parfois d'utiliser la force, c'est pour contenir la violence. Je vous donne un exemple très simple. Ce matin, j'entendais à la radio, comme vous sans doute, qu'il y avait une opération de déconstruction de certains squats à Notre-Dame-des-Landes. Bon, et moi, mon vieil instinct d'officier se réveille, et mon vieil instinct d'homme un peu, j'ai envie de dire aux gendarmes, oh, allez-y au bulldozer, puis il faut. Bon, et j'entendais qu'il y a d'abord une équipe de déménageurs qui vont prendre les affaires, qui vont les mettre à l'extérieur, tout ça sous les cocktails Molotov et sous les cailloux et sous les machins des. Puis après, une équipe de gendarmes qui vont déplacer les personnes, etc. On dépense quand même beaucoup d'énergie pour des vandales. Oui, mais justement, c'est une question d'utiliser la force à bon escient, et la violence engendre toujours la violence. Donc la proportion, une violence disproportionnée contre une autre violence engendre une violence plus grande. Et donc tout l'art du militaire est de résorber la violence. C'est très très compliqué, hein, c'est très difficile, mais c'est tout l'art du militaire, tout l'art de l'autorité militaire. On pourrait, mais je suis pas dans un cours de philo, hein, mais on pourrait s'étendre certainement sur une certaine forme d'autorité dans le domaine de la justice. L'autorité judiciaire, c'est une autorité importante celle-là, hein, parce que c'est l'autorité qui juge, et c'est certainement pas facile. Je ne m'étends pas trop, mais j'ouvre la porte quand même, parce que c'est un c'est un lieu certainement important. Alors, on voit au premier coup d'œil, on voit que toutes ces autorités-là, toutes ces formes d'autorité sont extrêmement différentes. Sont extrêmement différentes, diverses, parce que les biens sont divers. Parce que les domaines dans lesquels elles s'exercent sont diverses. Et pourtant, ce qu'il faut essayer, si on essayait de travailler la question de l'autorité, il faut essayer de découvrir les points communs, les points communs qui font que l'autorité est toujours une autorité. On parle d'une autorité domestique, d'une autorité politique, d'une autorité personnelle, mais c'est toujours une autorité. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité ? Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Je vais essayer de voir ce qui caractérise une autorité, c'est qu'il y a une relation. Une relation et une relation personnelle. Une relation personnelle entre quelqu'un qui commande et quelqu'un qui obéit. Entre quelqu'un qui exerce l'autorité et quelqu'un qui se soumet à l'autorité. Qu'est-ce qui peut fonder une autorité ? Je me souviens que à l'école navale, je m'étais violemment écharpé avec le capitaine qui commandait notre escouade, parce qu'on faisait un cours sur l'autorité, justement. Et c'est les premiers moments où j'ai commencé à travailler beaucoup ces questions-là. Et notre capitaine nous disait que l'autorité, la seule chose qui fondait l'autorité, c'était un règlement. Il dit, capitaine, quand il n'y aura plus de règlement, vous n'aurez plus aucune... D'ailleurs, vous n'en avez pas encore, mais... Bon, enfin bref, j'étais assez virulent sur... Mais du coup, ça m'a obligé à travailler beaucoup la question. Qu'est-ce qui fonde l'autorité ? Ce qui fonde l'autorité, c'est la primauté. Il est premier dans un ordre particulier. Le père a l'autorité sur son fils parce que c'est lui qui engendre. La mère a autorité sur son enfant parce que c'est elle qui fait grandir, qui croit. Le chef militaire a l'autorité sur ceux à qui il commande parce qu'il a une compétence plus grande. Et il y a une primauté de nature pour le père ou la mère. Mais il y a aussi une primauté de compétence. Quand c'est celui qui n'est pas compétent qui a l'autorité, ça conduit à des désastres. Et c'est normalement ce qui fonde l'autorité. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y en a qui commandent mais qui n'ont aucune autorité, c'est parce qu'il n'y a pas de primauté. Il leur manque une compétence. Alors ils commandent, mais ils commandent mal. Et ils ne sont pas crédibles. Et ce qui fonde l'autorité... C'est qu'il est premier. Dans quel domaine est-il premier ? Soit dans un domaine naturel, de nature, soit dans un domaine de compétence. C'est pour ça que quand on va choisir, par exemple, quand on va élire un président, ou quand on va élire un député, ou quand on va élire un maire, est-ce qu'on choisit celui qui a une bonne gueule ? Est-ce qu'on choisit celui qui fait la meilleure pub et qui a dépensé le plus d'argent dans sa campagne ? Est-ce qu'on va élire celui dont on parle dans les médias ou est-ce qu'on va élire celui qui est vraiment compétent dans le domaine où on voudrait l'élire ? C'est compliqué, hein, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ce qui caractérise encore un point commun entre toutes les autorités, toutes les formes d'autorité, c'est l'exercice. C'est-à-dire, c'est l'exercice, il y a une certaine coopération... entre celui qui commande et celui qui obéit, celui qui a l'autorité et celui qui se soumet à l'autorité, il y a une coopération pour une œuvre commune. Et ce qui est absolument nécessaire de bien voir, c'est que cette œuvre commune, la fin poursuivie, le but, est le même pour celui qui commande et pour celui qui obéit. Si celui qui commande commande pour faire du fric... Il n'a plus aucune autorité, parce qu'il le fait sur le dos de ceux à qui il commande. Et vous voyez, à partir de là, on peut voir toutes les déviations possibles, mais on peut voir aussi l'autorité dans sa source. Si on regarde maintenant les propriétés, ce qui caractérise l'autorité, c'est que c'est toujours enfin... c'est toujours, premièrement, toujours en vue d'une fin personnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorité ne peut jamais être abstraite. L'autorité, elle ne peut jamais être impersonnelle. L'autorité est toujours nécessairement personnelle. C'est ce qu'ils font d'ailleurs dans la doctrine sociale de l'Église, c'est ce qu'ils font de la subsidiarité, le principe de subsidiarité. Et celui qui est trop loin de ceux qui obéissent, il ne peut pas commander à ceux qui obéissent, parce qu'il y a trop d'échelons intermédiaires. Et donc il faut que l'autorité s'exerce par des intermédiaires pour que cette autorité puisse toujours être personnelle, pour que la relation puisse toujours être personnelle. D'autre part, si l'autorité est en vue d'une fin, ça veut dire que tout le monde, celui qui commande comme celui qui obéit, est au service de cette fin. Au service de cette fin, c'est-à-dire par exemple au service du bien commun, au service de la famille, au service de la santé, au service de... Vous voyez ? Ça veut dire que on est toujours serviteur. Et là, je touche quelque chose qui est absolument essentiel dans l'autorité. L'autorité est un service. L'autorité est toujours un service rendu. Le jour où je regarde l'autorité comme une propriété, ça n'est plus de l'autorité. L'autorité est toujours... Donc celui qui exerce l'autorité, doit, mais je vais y revenir tout à l'heure, doit toujours être un serviteur. Ce qui exige, pour celui qui exerce l'autorité, une certaine pauvreté, c'est-à-dire une certaine pauvreté intérieure. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure. J'arrive plus à savoir exactement où j'ai trouvé cette citation, mais je la trouve magnifique. Je n'ai pas réussi à retrouver exactement, mais c'est quelque chose qu'on disait en tout cas dans mon monde de la marine. Le vrai chef dit « Vous êtes à mes ordres, mais moi je suis à votre service ». Si quelqu'un sait d'où ça vient, je suis preneur, mais je ne sais pas. Mais je trouve ça très beau. Ça dit très bien ce que ça veut dire. Vous êtes à mes ordres, mais moi je suis à votre service. Ensuite, c'est toujours une propriété de l'autorité qu'il s'agit toujours d'une fin personnelle, même quand c'est une fin commune, un bien commun, ça touche toujours des personnes. Ce qui implique que la relation dont on parlait tout à l'heure est toujours une relation personnelle et exige toujours un certain amour de la personne. Je ne peux pas exercer l'autorité sans amour des personnes envers qui je l'exerce. Je ne peux pas exercer réellement une autorité sans aimer les personnes envers qui auxquelles je m'adresse. Et d'un amour, on va voir tout à l'heure lequel, mais c'est absolument... Celui qui exerce l'autorité sans amour perd son autorité. Encore une autre propriété de l'autorité, de toute autorité, c'est qu'elle exige la fidélité à ce service. Je ne peux pas me défiler d'une autorité. Je ne peux pas démissionner d'une autorité. Si mon mandat s'arrête, bien sûr, mais et si les conditions sont réunies pour que je renonce finalement à une autorité, vous voyez quand Benoît XVI renonce à sa charge, parce qu'il estime qu'il n'a plus la possibilité d'exercer cette charge. Donc il y renonce, mais justement, parce qu'il est pauvre et serviteur, il y renonce, parce que la charge ne lui appartient pas. Mais l'autorité exige une fidélité à cette relation personnelle. Et puis je mentionne encore, mais on va forcément y revenir, l'autorité exige une certaine douceur, parce que, encore une fois, il s'agit de personnes. Dès qu'il s'agit de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, la violence entraîne une violence. Et la violence n'est jamais constructive. Ceux qui ont le plus d'autorité, alors on va le voir évidemment avec la Vierge Marie, ceux qui ont le plus d'autorité sont ceux qui commandent avec beaucoup de douceur. Enfin, la qualité propre de celui qui commande, c'est-à-dire la qualité propre de l'autorité, c'est la vertu propre de l'autorité, c'est la prudence. Et ce qui, s'il faut particulier une vertu nécessaire à celui qui a l'autorité, celui qui exerce l'autorité, c'est la prudence. C'est la vertu propre de celui qui commande. La prudence qui sait discerner les situations, qui sait décider au bon moment, qui sait... Vous voyez, le père de famille qui manque de prudence, le chef militaire qui manque de prudence, le chef politique qui manque de prudence, etc. La qualité propre de l'autorité, c'est la prudence. Vierge prudente, dit-on de la Vierge Marie. Alors, vous avez remarqué que dans tout ça, je n'ai encore pas prononcé le mot de pouvoir. Et c'est évidemment exprès. Parce que l'autorité n'est pas le pouvoir. Et malheureusement, dans le langage moderne, l'autorité et le pouvoir sont exactement équivalents. Et même pratiquement, dans le langage moderne, on ne parle à peu près jamais d'autorité. Et on parle uniquement de pouvoir. Et ce qu'il faut absolument réussir à faire, c'est vraiment fondamental, c'est distinguer l'autorité et le pouvoir. Il y a des gens qui ont une immense autorité sans aucun pouvoir. Regardez le maximum. Jésus, sur la croix, a une autorité totale. Il n'a aucun pouvoir. Il est cloué sur le bois. Quel pouvoir a-t-il ? Il n'a plus aucun pouvoir humain, mais il a une autorité totale. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Regardez la Vierge Marie, elle a une autorité extraordinaire, elle n'a aucun pouvoir. Ma mère au Carmel disait toujours, « Comme je n'ai aucun pouvoir, je les exerce tous. » Et de fait, ma mère au Carmel avait une autorité qui était inouïe. C'est elle qui m'a fait connaître l'autorité de la Vierge Marie. C'est grâce à elle que je connais ça. Elle n'avait même pas besoin de prononcer un mot. Puis il y a des gens qui ont un immense pouvoir et aucune autorité. Vous voyez, je ne vous fais pas de dessin, parce que là, on en connaît pas mal, hein. Il y a des gens qui ont même les plus grands pouvoirs dans la cité, qui n'ont aucune autorité. Tout le monde rigole. Tout le monde s'en fout. Mais c'est l'autorité du flic. Enfin, l'autorité du flic, c'est... Il a le pouvoir du règlement, il a le pouvoir il a le pouvoir de la contredanse. Mais dès qu'il a le dos tourné, dès qu'il n'y a plus de radar, vous accélérez. Dès qu'il y a... Enfin, vous voyez. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que plus le pouvoir écrase... Et moins l'autorité se distingue. Moins on a d'autorité, et plus il faut exercer un pouvoir. Au fond, j'aimerais beaucoup que tout le monde comprenne. L'autorité, c'est une relation entre deux personnes. Alors que le pouvoir, c'est un instrument. Le pouvoir se moque des personnes. Le pouvoir n'a que faire des personnes. Le pouvoir est aux mains de celui qui exerce l'autorité, parce que de fait, il faut parfois exercer l'autorité avec un certain pouvoir, parce qu'il y a des forces contraires, parce qu'il y a des forces centrifuges. Alors, en philosophie, on dirait parce que le bien est ardu, le bien est difficile. En théologie, on dira à cause du péché. On n'est pas naturellement conduit vers la fin. On n'est pas naturellement conduit vers le bien. Il y a des forces contraires, il y a des forces contradictoires. Ben, il suffit de regarder en nous comment ça se passe. Hein. En moi, j'ai des envies qui ne sont pas encore disciplinées. Et je suis obligé d'exercer un certain pouvoir sur moi, sur mes passions, sur mes envies, pouvoir discipliner tout ça et viser le bien, mon bien réel. Mais si, sur moi-même, j'exerce une pression trop forte, ça va finir par exploser. J'en verrai tout balader. Si je ne me traite pas moi-même avec douceur, un jour ou l'autre, je vais tout envoyer balader. Et si j'exerce sur moi-même le pouvoir de la loi, le pouvoir de le carême, il faut, le pouvoir de le pouvoir de la morale, le pouvoir de, vous voyez, de il faut, tu dois pas. sans aucune douceur, sans aucune considération, sans aucune miséricorde, un jour ou l'autre, je vais exploser. C'est le jansénisme qui aboutit à une espèce d'explosion de la morale. Mais si, par excès de miséricorde, je m'excuse pour tout, ben finalement, je laisse libre cours à toutes mes passions et à tout, je ne discipline plus rien. Il faut absolument distinguer l'autorité du pouvoir. L'autorité, c'est une relation entre deux personnes dans plusieurs domaines que j'ai essayé de décrire. Le pouvoir, c'est un instrument. Le pouvoir, il y a plusieurs sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir politique. Le pouvoir politique au sens très large. Le pouvoir politique, c'est aussi bien le pouvoir de l'agent de police que le pouvoir du président de la République. C'est le pouvoir de la Constitution, c'est le pouvoir d'un règlement, c'est le pouvoir... Oui, il y a un pouvoir politique, au sens, encore une fois, très très large. Le pouvoir... Il y a le pouvoir de séduction. Il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir selon le règlement, qui ont un immense pouvoir de séduction. Qu'est-ce que j'en fais de ce pouvoir ? Il n'est pas forcément mauvais, le pouvoir de séduction. Jésus avait un pouvoir de séduction formidable. Il fait tomber Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est folle amoureuse. Mais c'est un pouvoir de séduction qui est aux mains de quelqu'un qui a une immense autorité. C'est formidable le pouvoir de séduction. Et c'est beau d'avoir un pouvoir de séduction. Et le démon a un immense pouvoir de séduction, quasi infini, quasi illimité. Il n'a aucune autorité parce qu'il n'aime pas. Il n'a aucun pouvoir selon il n'a aucun pouvoir politique ou selon le règlement. L'Évangile ne donne aucun pouvoir à Satan. Mais il n'a que le pouvoir de séduction. Mais avec le pouvoir de séduction, il fait des sacrés dégâts. Hein. Mais le contre-exemple absolu, justement, de l'autorité, c'est Satan, qui a un immense pouvoir. Il règne sur le monde, selon Jésus, hein, homicide dès l'origine, menteur et prince du mensonge. Satan, c'est la caricature de l'autorité, c'est le renversement, c'est complètement à l'envers.
Non, c'est la caricature du pouvoir.
De quoi
c'est la caricature de l'autorité.
Oui, Satan exerce un pouvoir, justement parce qu'il n'a aucune autorité. Et plus, moins il a d'autorité, plus il exerce ce pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui écrase. Le pouvoir écrase toujours. Alors il faut un certain pouvoir, encore une fois, parce qu'il y a des forces centrifuges. Donc il faut pouvoir contenir les choses qui vont de travers.
L'autorité peut le faire, ça.
Comment tu dis ?
L'autorité peut le faire.
L'autorité a besoin d'un certain pouvoir pour le faire. Jésus avait un certain pouvoir, ne serait-ce que son pouvoir de séduction, puis son pouvoir divin, son pouvoir de connaissance, son pouvoir de compétence. Jésus a un pouvoir formidable, en fait. Mais sur la croix, il renonce à tout pouvoir parce que son autorité est tellement grande qu'il n'a plus besoin d'exercer un pouvoir. Plus j'ai de l'autorité, moins j'ai besoin du pouvoir. Et justement, le modèle... Les deux figures absolument radicalement contraires, Satan, qui n'a aucune autorité, donc qui n'exerce que le pouvoir, mais un pouvoir qui écrabouille jusqu'à détruire, Jésus, qui renonce à tout pouvoir... parce qu'il a une autorité totale. Et lui, il élève. Vous voyez la distinction ? Eh bien, la Vierge Marie, dans l'ordre des créatures, c'est elle qui a une autorité totale, sans aucun pouvoir. Elle aurait un pouvoir de séduction formidable. Mais il n'y a pas plus belle que la Vierge Marie. Elle pourrait se servir de ses charmes pour obtenir n'importe quoi. Elle ferait tomber n'importe quel. Personne n'est plus belle qu'elle. Personne ne pourrait même rivaliser avec elle au point de vue de la beauté. Donc elle pourrait avoir un pouvoir de séduction formidable. Mais elle n'a plus besoin d'aucun pouvoir parce qu'elle a une autorité. Qu'est-ce qui lui donne cette autorité totale ? Sa primauté, elle est première. Dans quel ordre ? Parce qu'elle est la mère. Et ce qui lui donne cette autorité formidable, c'est cet amour qu'elle a dans la connaissance parfaite du bien poursuivi. Vous comprenez ? Ça va ? Je ne suis pas trop compliqué ? Elle sait tellement où on va, elle est tellement finalisée, elle est tellement déterminée que par sa simple présence, par un simple sourire, elle obtient absolument tout. Et elle obtient tout, elle obtient surtout l'adhésion de ceux qui obéissent. Mais c'est notre expérience à nous tous. Plus je m'approche de la Vierge Marie, plus j'ai envie d'obéir. Et plus cette obéissance est douce, plus il est beau et bon d'obéir, parce que je sais que je vais vers mon bien. Plus j'adhère à cette autorité, et plus je sens bien que ma vie devient plus légère. Au fond, on retrouve là quelque chose qu'on a souvent étudié. La plus grande supercherie du démon, la plus grande ruse du démon, c'est de nous faire croire qu'on serait libre en étant indépendant. Je ne dépends plus de personne. En ne dépendant plus de personne, je suis totalement esclave de mes envies, qui sont totalement anarchiques parce qu'elles ne sont plus finalisées. Et donc, je n'en ai jamais assez, donc c'est insatiable. Jusqu'à l'angoisse de mort. Si, au contraire, j'accueille la dépendance d'amour, qui est une dépendance radicale, il n'y a pas plus dépendant que l'époux par rapport à son épouse. Il n'y a pas plus dépendante que l'épouse par rapport à son époux. Les parents sont dépendants de leurs enfants, les enfants sont dépendants de leurs parents, etc., etc. Mais cette dépendance, si c'est une dépendance d'amour, elle me rend libre. Est totalement libre. Je ne serai jamais autant libre qu'en adhérant, qu'en m'approchant de la Vierge Marie pour lui obéir, qu'en accueillant l'autorité de la Vierge Marie. Au fond, moi, j'ai été toujours marqué, évidemment, ça c'est ma vie d'avant, mais je ne renie rien de ma vie d'avant, et même je bénis le ciel de m'avoir fait connaître tout ça. Quand on change de commandant sur un bateau, l'amiral, il y a à sa droite le nouveau commandant, et l'amiral dit à l'équipage rassemblé sur le pont, « Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef et votre commandant, le commandant un tel, machin. » Vous reconnaîtrez. S'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion nécessaire. Et rien qu'à voir la gueule du nouveau commandant, je sais déjà si je vais adhérer volontiers ou si je vais adhérer parce que c'est le règlement qui me l'impose. Je sais, il ne faut pas juger à la gueule, mais quand même, c'est une bonne indication. Coupez les micros. Ben avec un évêque, c'est pareil. Non mais, attends. Alors l'évêque, je le reçois de Dieu, pas seulement de l'amiral, donc c'est un peu autre chose. Non mais, avec un pape, c'est pareil. J'adhère plus ou moins de bon gré à celui qui commande et que je reçois comme père. Mais je sais très bien qu'il y a des pères qui ont une immense autorité sans avoir besoin d'exercer un pouvoir et il y a des pères qui vont avoir besoin de serrer la vis pour exercer leur autorité. Et ceux-là sont moins aimés. C'est normal, hein, c'est très humain, au fond. Vous voyez ? Et c'est très important de le comprendre. C'est très important de comprendre ce qui se passe et de comprendre pourquoi. Parce que nous avons tous une autorité à exercer, ne serait-ce que la clé du placard de ménage. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Alors, en quoi la Vierge Marie peut nous aider là-dedans ? J'ai envie de reprendre. Marie, elle est le modèle de ceux qui vivent les béatitudes. On va voir demain, après-demain, la récollection sur Gaudete et Exultate. Là, il y a un très beau chapitre du pape François dans cette exhortation sur les béatitudes. Il y a un très beau chapitre de commentaires sur les béatitudes. Magnifique. Bon. Eh bien, celle qui est la sainte des saints, la reine de tous les saints, la Vierge Marie, elle vit parfaitement les béatitudes. Jésus, il est lui-même ce chemin des béatitudes. Mais encore une fois, Jésus, c'est un peu particulier parce qu'il est, il est Dieu et homme à la fois. Alors que Marie, elle est pure créature. Et Marie, elle est parfaitement dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est tout entier en elle. Elle est pleine de grâce. Et comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, ceux qui vivent les dons de Dieu sont fils de Dieu. Marie est parfaitement fille de Dieu parce qu'elle est tout entière remplie, comblée des dons de l'Esprit. Et dans l'influence, dans le rayonnement, dans le consentement aux dons de l'Esprit, elle vit parfaitement les béatitudes. Et parce qu'elle vit parfaitement les béatitudes, elle m'aide, elle m'apprend à exercer l'autorité d'une façon magnifique. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Je regarde l'expérience que j'ai, je vois bien les gens à qui j'ai envie d'obéir, ils sont pauvres de cœur, c'est-à-dire ils sont humbles. Ce n'est pas des gens qui se pavoinent, ce n'est pas des gens qui se montrent. Et je reparlais de Jean-Paul II aujourd'hui avec quelqu'un et qui disait « Oui, Jean-Paul II s'est montré faible et fragile. » Non, non, Jean-Paul II ne s'est jamais montré, il s'est laissé voir. Et il s'est laissé voir sans défense, il s'est laissé voir dans sa fragilité, pauvre de cœur, ne revendiquant aucun privilège, ne revendiquant aucune place. Et s'il est assis à la place centrale, c'est parce qu'il exerce sa charge. Mais sans la revendiquer, sans en faire une propriété, il est pauvre de cœur. La Vierge Marie, il n'y a pas plus pauvre qu'elle. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit. Ça, c'est la première grande qualité de celui qui exerce l'autorité. Heureux les doux. J'ai mentionné la douceur tout à l'heure. Heureux les doux, ils posséderont la terre. On dit de temps en temps, il est trop doux celui-là, il ne pourra pas commander correctement. Mais ce n'est pas vrai. Moi, les chefs que j'ai le plus appréciés dans ma vie sont incroyablement doux. La douceur, ils n'ont pas besoin d'élever la voix. La Vierge Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a une autorité telle. Elle obtient tout. Ce n'est pas vrai qu'il faut être dur pour commander. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut se faire redouter pour commander. C'est pas vrai. Il faut être aimé pour commander. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils voient bien le décalage entre le monde et le monde des hommes, le monde au pouvoir du mauvais et le monde de Dieu, le monde, le royaume de Dieu. Heureux ceux qui savent discerner justement le mal et le bien. Heureux ceux qui savent, qui pleurent de ce que le bien ne qui pleurent sur les péchés du monde, qui pleurent sur la gravité de la violence, sur ils seront consolés. La Vierge Marie pleure. Où est-ce qu'elle pleure? Un peu tout le temps, mais surtout au pied de la croix. Je suis persuadé qu'au moment où elle retrouve Jésus au temple, quand il a 12 ans, elle a une larme dans les yeux, et elle ne peut pas ne pas pleurer. Et c'est une femme qui sait pleurer, comme Jésus d'ailleurs, qui sait pleurer. Mais ses larmes sont toujours contrôlées, elle ne pleurniche pas, elle pleure. Elle fait... Ça, c'est des pleurs qui ne sont pas contrôlées. Elle pleure de douleur, mais d'une douleur qui est une douleur d'amour. Alors elle a déjà sa consolation. Et je pense que celui qui commande, le chef, quel qu'il soit, le père, la mère, le médecin, le maître, l'homme politique, le chef de guerre, il doit savoir pleurer. Physiquement ou pas physiquement, peu importe, mais il doit savoir pleurer avec ceux qui pleurent. Il doit savoir éprouver, il doit être perméable à la douleur. Il doit être résistant au mal, résistant à la souffrance, mais perméable à la douleur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Celui qui n'a pas faim et soif de la justice ne peut pas commander. Qui a faim et soif de la justice comme la Vierge Marie? Mais celui qui n'a pas faim et soif de la justice, il peut pas être un vrai chef. Il aura, comme on disait tout à l'heure, il pourra avoir un grand pouvoir. Mais c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de nos chefs aujourd'hui qui n'ont aucune autorité, parce qu'ils n'ont pas faim et soif de la justice. Ils n'ont faim et soif que du pouvoir, justement. Heureux les miséricordieux. Là aussi, la Vierge Marie est modèle, c'est le refuge des pécheurs. Je vous parlais tout à l'heure de Marie avec Pierre. Mais justement, si Pierre va voir Marie, c'est parce qu'elle a une immense autorité. Une autorité qui ne juge pas. Mais c'est curieux, celui qui a de l'autorité attire. Celui qui n'a que le pouvoir répulse. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Est-ce que j'exerce mon autorité avec un cœur pur ? Qu'est-ce que c'est le cœur pur ? C'est le cœur vrai, c'est le cœur qui est transparent, c'est le cœur qui ne triche pas. On a trop été habitués dans l'Église, malheureusement, à regarder la pureté comme la pureté sexuelle, mais bon sang, il faut élargir l'horizon. La pureté, c'est pas la pureté sexuelle. La pureté, c'est la pureté d'âme, c'est la transparence de l'âme, c'est la transparence de l'intelligence. La pureté, c'est la pureté du bon larron qui ouvre son cœur et qui reconnaît son péché, et il voit Dieu. Il voit la divinité de Jésus, et du coup, aussitôt, il peut lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dommage que le bon larron n'ait pas vécu, parce qu'il aurait eu une grande autorité. Je suis sûr que le centurion, qui lui s'est converti, il a gagné une autorité complètement nouvelle. Heureux ceux qui sont artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, pas plus artisans de paix que la Vierge Marie. Est-ce que l'autorité, bien sûr, on voit tout de suite, l'autorité, il faut être artisan de paix, il faut vouloir construire la paix, il faut vouloir la paix. Il y a des chefs qui ne veulent pas la paix, ils perdent leur autorité. D'ailleurs, vous voyez, des chefs de guerre, ou même des chefs politiques, des tyrans qui ont... Ils ne veulent pas la paix. Il y a des foules qui les suivent. Regardez, c'est incroyable. Regardez la Corée du Nord aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable quand même. Mais ce guignol n'a aucune autorité. Il a un pouvoir gigantesque. Mais je disais ça dans l'homélie dimanche dernier. Le peuple coréen, c'est un peuple uniforme. Je ne vois qu'une tête. J'ai pas le droit de penser autre chose que la pensée obligatoire. Je n'ai pas le droit d'avoir une conduite autrement que la conduite obligatoire. Il n'y a plus aucune autorité là-dedans. Regardez un roi Saint-Louis, enfin, il y a des rois très saints, il y a aussi des gens, vous voyez, sans être des grands hommes politiques, mais regardez un Jean Vanier qui a conduit l'Arche, qui a fondé l'Arche, qui ont une autorité magnifique, mais parce qu'ils sont profondément, ils sont artisans de paix. Et le modèle des modèles, la Vierge Marie. Heureux aussi ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux contre qui on dira toutes sortes de choses fausses. L'autorité doit pouvoir porter tout ça et considérer que c'est une béatitude. Marie n'a pas rougi de son fils nu, cloué sur le bois. Marie n'a pas rougi du chemin de croix. Elle n'a pas rougi de son fils défiguré. Et quand on crachait à la figure de Jésus ou quand on hurlait contre lui, elle prenait tout pour elle. Alors on pourrait, c'est ma conclusion en forme d'ouverture, mais on pourrait regarder spécialement de l'autorité dans l'Église, mais on le fera plus tard parce que c'est le sixième jour de la neuvaine, c'est justement le travail à la vigne du Seigneur. Donc on essaiera de regarder comment... Marie nous apprend à vivre dans l'Église, chacun selon sa place, chacun à son rang et chacun à sa place personnelle. Voilà, je m'arrête en rendant grâce à la Vierge Marie, mais peut-être qu'on peut garder quelques minutes pour répondre à certaines questions s'il y en a. J'espère ne pas avoir été trop compliqué, mais oui.
Jean-Marie,
vous
disiez souvent avoir autorité et donc
Qui ça disait ?
Ben vous n'avez jamais employé le mot être autoritaire.
Parce que l'autoritaire, justement, perd son autorité. Ouais. Celui qui est autoritaire, c'est parce qu'il n'a plus d'autorité. C'est une défiguration de l'autorité. Celui qui est autoritaire, c'est celui qui en réalité exerce un certain pouvoir parce qu'il veut dominer. Et celui qui est autoritaire, en réalité, il perd son autorité du même coup. Ouais.
Comment réagir au boulot face à quelqu'un qui est plus en pouvoir qu'avec cette hiérarchie ? Invoquer la guerre, d'accord, mais...
Subir quelqu'un qui est... Oui. Alors, je pense qu'il y a une certaine... je pense que... Quand on sent que la résistance... C'est-à-dire, on a une résistance humaine limitée... je veux bien qu'on me traite de tout ce qu'on veut, je veux bien que, parce que c'est une béatitude, on dise du mal contre moi. Mais la béatitude, c'est quand on dit du mal contre moi à cause de Jésus. Si c'est qu'on dit du mal contre moi parce que c'est moi dans une entreprise avec un chef qui est un tyran, alors là, je dois me rebeller. Et d'ailleurs, Jean-Paul II va très loin dans son encyclique sur le travail pour le droit du syndicat. Le droit de défense du travailleur, vous voyez, qui doit se défendre, et qui doit pas permettre que l'autorité soit bafouée de cette manière-là. Et si malgré tout, je continue à être martyrisé, il y a un moment où il faudra changer de boulot, même si c'est une injustice, mais il faut sauver sa peau, c'est-à-dire il faut pas accepter d'être détruit. Alors il faut exiger et il faut se défendre et les syndicats ou toute forme de corporation pour défendre le droit de ceux qui travaillent ou de ceux qui sont dans une entreprise. Mais si c'est inefficace et qu'on ne peut pas lutter contre, il y a un moment où il faut dire « bon, on va aller ailleurs parce qu'on ne peut pas se laisser détruire ». D'ailleurs, les études des gens qui sont un peu spécialistes du management aujourd'hui montrent que finalement, ça n'a qu'un temps. Les gens qui dirigent une entreprise de cette manière, finalement, font péricliter leur entreprise. Y a des études très intéressantes qui montrent que plus le management... je dis management à dessein, parce que tout le monde dit management. Et management, c'est un mot français, figurez-vous, hein. Management, ça vient de faire tourner les chevaux dans un manège. Vous voyez, c'est le management. On fait tourner les gens dans un manège, c'est-à-dire on organise les choses. Mais on montre aujourd'hui, il y a des études très intéressantes qui montrent que si on respecte l'homme et si on respecte la justice, enfin si on respecte le bien commun, si on agit selon la justice dans l'exercice de l'autorité, eh bien l'entreprise prospère et prospère beaucoup mieux qu'une autre. Même au point de vue d'un propre rendement, parce que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, forcément. Et du coup, l'entreprise est beaucoup plus prospère, même au point de vue matériel. L'entreprise qui veut faire à tout prix du rendement, du chiffre et du... Ben, enfin, je vous fais pas de dessin, vous savez ça mieux que moi pour beaucoup d'entre vous. On est pressuré pour faire du chiffre et pour faire du rendement. Mais même aujourd'hui dans les hôpitaux, il faut être rentable et il faut faire du rendement. Mais c'est effroyable parce que le malade là-dedans n'est plus qu'une valeur marchande. Il faut du malade pour faire marcher l'hôpital. Mais c'est effroyable parce que c'est... On est complètement, enfin, on est dans une vision complètement déviée et complètement. Voilà. C'est bon comme ça?
Ce que vous disiez là, sur la Vierge Marie, c'est de la méditation personnelle.
Oui, parce que je l'ai à peu près jamais lu comme ça, mais j'en suis tellement sûr aujourd'hui que. Je vous avoue même que maintenant, j'en suis sûr, je voudrais écrire quelque chose là-dessus, parce que la conversion du... En fait, je suis obligé de reconnaître que je ne sais pas à quel moment le bon larron s'est converti. Peut-être que le bon larron, dans sa vie, était déjà avait déjà envie de suivre le Christ et puis n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer et qu'enfin sur la croix il le rencontre et il peut faire sa confession. Moi personnellement je ne crois pas. Parce que sa conversion est quand même très... Mais peu importe, après tout, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur la croix, il fait un acte de foi tellement fort. Et pour avoir longtemps médité, regardé cette scène de la croix, le bon larron, ça je sais par l'évangile, qui sont crucifiés, Jésus au milieu, un de chaque côté. Et quand je regarde le rocher du Golgotha, concrètement, le Golgotha, c'est pas large. Donc le bon larron est à côté du Christ, mais crucifié comme ça, il ne peut plus voir le visage du Christ. Mais il voit le visage de Marie qui est à 1,50 m de lui. Et il voit dans le visage de Marie le visage de son fils. Il a parfaitement... Alors ça, mais j'ai prêché là-dessus pas mal de fois dans la paroisse maintenant. Mais parce qu'il a reconnu évidemment que Marie est la mère de Jésus. Il a eu tout le chemin de croix pour méditer là-dessus, pour regarder tout ça. Il a... Ah oui, c'est fabuleux, ça, c'est fantastique. Fantastique. Allez, on clôt là, on va dire la prière de Notre-Dame du Travail. Notre-Dame du Travail, je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, mes réussites. Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, mes espoirs et mes ambitions. À ceux qui ont un métier, donnez la joie du travail bien fait et celle d'un véritable épanouissement. À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, à ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, donnez la confiance et la persévérance. À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, qui travaillent dans l'angoisse du lendemain ou le découragement de la routine, à ceux qui fuient la réalité du quotidien, donnez le dynamisme de l'espérance. À celles qui portent le beau travail de l'enfantement, donnez le rayonnement dans la joie de l'attente et la paix dans l'inquiétude. Soyez la consolation de celles à qui la vie semble se refuser. Notre-Dame du Travail, ô notre Mère, donnez-nous la force et la docilité de Saint-Joseph. Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le dénuement. Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter, consoler, et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la miséricorde. Amen. Notre-Dame du Travail, priez pour nous. Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et y demeure à jamais.
Amen.
Amen. Merci beaucoup. Merci.